Et c'est l'heure de la revue de presse avec Ézéchiel Fernandez. Bonjour Ézéchiel.
Bonjour Lucas, bonjour à tous.
La crise autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem suscite une intense activité diplomatique.
Oui, selon témoigne le site en ligne du quotidien turc Hurriyet, journal proche, vous le savez, du pouvoir, qui évoque l'entretien du ministre turc des Affaires étrangères hier avec son homologue égyptien avant une réunion d'urgence de l'OIC, c'est-à-dire l'Organisation de la coopération islamique, aujourd'hui même à son siège de Jeddah en Arabie Saoudite. Rappelons que l'une des vocations de l'OIC est justement la préservation des lieux saints de l'islam. Avant de s'envoler vers l'Arabie Saoudite, première étape de sa tournée dans les pays du Golfe, le président Erdogan s'est fendu quant à lui d'une déclaration selon laquelle personne ne pouvait attendre du monde musulman qu'il ne réagisse pas face aux restrictions imposées aux sanctuaires et aux offenses faites à l'honneur, dit-il, des musulmans. Depuis l'installation des portiques de détection de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées, rappelons-le, 4 Palestiniens et 3 Israéliens ont été tués.
Ézéchiel, la crise va-t-elle déborder des frontières israélo-palestiniennes?
C'est bien la question qui se pose singulièrement depuis la fusillade d'hier à Amman dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël qui a fait 2 morts, 2 Jordaniens et 1 blessé israélien. Fusillade dont on ne sait pas grand-chose, il faut bien l'avouer. Si l'on consulte la presse jordanienne ce matin comme The Jordan Times, on peut constater qu'aucune corrélation n'est établie avec l'esplanade des mosquées. La prudence est donc de mise tant que l'enquête en est au stade préliminaire. Le fait est que la Jordanie est la gardienne des lieux saints de Jérusalem et qu'un accord de paix la lie à ce pays depuis 1994. L'inquiétude de voir cette crise essaimer dans la région est également nourrie, souligne le quotidien espagnol El País, par la déclaration hier de la Ligue arabe qui accuse Israël de jouer avec le feu. L'État hébreu est en train de pousser la région dans une spirale très dangereuse en adoptant des mesures qui affectent non seulement les Palestiniens, mais qui génèrent aussi du ressentiment chez chaque arabe et musulman, dixit le secrétaire général de la Ligue arabe. Réduire les tensions dans cette région, c'est la mission dévolue à partir d'aujourd'hui à l'américain Jason Greenblatt, représentant spécial de Donald Trump pour les négociations internationales, mission qui fait la une du site en ligne du journal israélien Haaretz. Tout au long de la dernière semaine, la diplomatie américaine a œuvré en coulisses pour tenter de calmer le jeu en discutant avec Israël, l'autorité palestinienne et la Jordanie, rappelle Barak Ravid. Il va être de toute évidence difficile de trouver un compromis sur la question des détecteurs de métaux. Le gouvernement israélien n'a pas l'intention de les retirer, il l'a encore martelé hier, tandis que Mahmoud Abbas, le président palestinien, pose comme préalable justement une résolution de cette crise, la disparition pure et simple de ces détecteurs. Alors, comment éviter l'impasse totale? Cela pourrait passer par une demi-concession israélienne, comme un assouplissement des mesures de sécurité, à savoir l'installation, hier même, de caméras équipées de systèmes de reconnaissance faciale qui permettraient théoriquement de filtrer l'accès à l'esplanade des mosquées et qui aurait donc pour effet de limiter l'usage des portiques de détection des métaux. C'est assez subtil. Ajoutons enfin que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte pour tenter de trouver les voies d'une désescalade de la tension dans cette région.
La perspective d'un référendum en Catalogne, elle, fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté des Pyrénées.
Et c'est tout à fait normal. Un peu plus de 2 mois maintenant de la date prévue de ce scrutin d'autodétermination, le bras de fer avec le gouvernement espagnol s'est encore musclé. Madrid menace d'exercer de nouvelles sanctions financières si la Catalogne engage des moyens pour organiser ce référendum considéré comme illégal. Le quotidien El País publie un article très très fouillé sur la position d'intellectuels et artistes catalans. Sur ce scrutin, l'écrivain Juan Marsé, lauréat du prestigieux prix Cervantes, estime que c'est rigoureusement incompatible avec un état de droit. Le chanteur catalan Joan Manuel Serrat déclare quant à lui qu'il n'ira pas à un scrutin auquel ne participeront pas une majorité de citoyens. Selon le dernier sondage, commandé d'ailleurs par le gouvernement régional, 49,4% des Catalans se déclarent contre la sécession, 41,06% favorable à la séparation. Mais compte tenu du taux d'abstention qui pourrait être élevé, le oui l'emporterait massivement, et c'est bien cette hypothèse que rejette le chanteur Joan Manuel Serrat. Un autre romancier, lauréat du prix Cervantes, Eduardo Mendoza, est encore plus vigoureux dans sa critique. Le processus a complètement déraillé, dit-il, le train poursuit sa route mais hors des voies, et de désigner comme cause principale de ce dévoiement le nationalisme. La cinéaste Isabelle Coixet abonde d'ailleurs dans le même sens. « Je ne vois pas de contradiction, dit-elle, entre le fait d'être catalan, d'être espagnol. Je me sens européenne, catalane, espagnole. Je ne crois pas que le référendum soit la pratique la plus démocratique du monde et il est de surcroît organisé par ceux qui souhaitent l'indépendance. » Autant dire que selon elle, les dés sont pipés, même si à l'heure qu'il est, dans l'hypothèse où le référendum aura bien lieu le 1er octobre, ce sont les indépendantistes qui l'emporterait, une victoire dont on ne sait pas à quoi elle aboutirait, selon l'éditorialiste du Periódico de Catalunya, qui évoque une victoire à la Pyrrhus au lendemain des plus incertains.
Merci Ezequiel Fernandez pour cette revue de presse internationale. On vous retrouve demain, évidemment, à la même heure.